Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Conflit au Soudan du Sud, le chef de la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, a déploré ce mercredi ce qu'il a appelé le climat de suspicion entre les parties ayant signé un accord de paix le 12 septembre. David Shearer regrette qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise par les ex-belligérants pour appliquer l'accord en question. Ceux qui ont signé le document ont par le passé été amis et ennemis, et il transparaît dans nos discussions avec eux qu'il y a encore beaucoup de suspicions, a souligné le chef de la MINUS lors d'une conférence de presse à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Et toujours concernant le Soudan du Sud, Amnesty International affirme dans un rapport publié aujourd'hui que l'armée sud-soudanaise et ses milices alliées se sont livrées à de nouvelles atrocités d'une brutalité ahurissante contre des civils lors d'une offensive menée d'avril à début juillet dans le nord du pays. Dans ce document intitulé « Tout ce qui respirait était tué », des crimes de guerre à Léer et Mayendit, l'ONG de défense des droits humains basée à Londres a compilé les témoignages de quelques 100 survivants qui font état non seulement de civils tués aveuglément, pendus à des arbres et écrasés par des véhicules blindés, mais aussi de viols, enlèvements et pillages. Violence en Afrique de l'Ouest maintenant, le Burkina Faso fait face à de grands défis sécuritaires avec la montée du terrorisme dans le pays. En 3 ans, plus d'une centaine de personnes sont décédées et ces derniers jours, l'armée a annoncé avoir détruit des bases terroristes dans l'est du pays. Mais l'opposition estime que le pouvoir en place ne déploie pas assez d'efforts dans cette lutte contre le terrorisme. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le Premier ministre a reconnu devant la représentation nationale que le pays est en guerre. En 3 ans, 118 personnes, civiles comme militaires, ont été tuées. Il faut agir. Le Premier ministre Paul Kabatieba.
La situation sécuritaire dans le pays s'est considérablement dégradée depuis le début de cette année. Il s'agit sans doute d'une guerre. Une guerre injuste, imposée à notre peuple. Nous allons la mener pour défendre chaque pouce de notre territoire national. Nous allons la mener pour assurer la sécurité de Burkinabés et de leurs biens.
Mais l'opposition estime que le pouvoir en place ne fait rien dans cette lutte contre le terrorisme. Jean Akoulma de l'UPC, Union pour le Progrès et le Changement, principal parti d'opposition.
L'insécurité prend des proportions inquiétantes dans notre pays. Dans la région de l'Est, en plus des attaques par mines piégées contre les forces de défense et de sécurité, les assaillants s'en prennent à des édifices publics et assassinent froidement des civils, comme c'était le cas samedi dernier dans la Kompienga. Les attaques auraient pu être circonscrites, voire stoppées, si nos autorités avaient équipé de manière adéquate nos forces de défense et de sécurité, suffisamment réorganisé et outillé les services de renseignement, tout en veillant à ce que le moral de nos valeureux soldats demeure haut. Mais tel n'est pas le cas.
Selon un communiqué de l'état-major, l'armée a effectué des frappes aériennes ce week-end dans l'est du pays, désormais principal bastion des terroristes. Des bases terroristes détruites. Ce n'est qu'une victoire d'étape, selon Laurent Kibura, spécialiste en sécurité et développement.
L'idée terroriste est un monstre qui se développe, qui mue et qui se métamorphose et qui s'adapte. Pour que ses actions soient efficaces, elles doivent être soutenues et continues et non ponctuelles, qui laissent le temps à ces groupes terroristes de se réorganiser et de revenir. Il faut que nous nous disions que nous sommes en situation de guerre qui a appelé à durer. Nous devons armer nos forces armées et nos services de renseignement à faire face à cette donne pour de bon.
Un conseil de défense devrait avoir lieu toutes les 2 semaines. Il sera présidé par le président du Faso lui-même, Roch Kabore, a annoncé le Premier ministre Paul Kabatieba. La dernière attaque dans l'est du pays a fait 8 civils tués. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, au Libéria, ouverture d'une enquête sur la disparition de conteneurs et de sacs remplis de billets de banque d'une valeur de près de 100 millions de dollars. Cet argent était destiné à la Banque centrale, a annoncé hier le gouvernement. Plus de détails avec Nanit Talani.
D'après le ministre libérien de l'Information, Len Eugène Nagbe, l'enquête a confirmé que le montant disparu est de 15 milliards de dollars libériens, soit 97 millions de dollars américains. Il a ajouté que le gouvernement mettra tout en œuvre pour retrouver les responsables de ce vol. Les premiers éléments de l'enquête, ouverte début août, montrent que les liasses de nouveaux billets imprimés à l'étranger sont arrivées au Libéria entre novembre 2017 et août 2018. Cette période correspond au dernier mois de la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf. L'investiture de George Weah à la tête du pays a eu lieu en janvier dernier. Le quotidien en ligne Front Page Africa avance que des membres du personnel de la Banque centrale du Libéria ont réceptionné ces conteneurs de billets et les ont emmenés du port fin mars, mais ne sont jamais arrivés à la banque. Le ministère de la Justice affirme que les enquêteurs disposent de preuves qui attestent que la nouvelle administration n'avait pas été informée de l'arrivée de ces billets. Ils doivent retrouver la trace de cet argent, mais aussi tenter de déterminer combien de dollars libériens ont été imprimés à l'étranger et injectés dans l'économie locale par les anciennes autorités, dans un pays où la monnaie locale cohabite avec le dollar américain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en RDC, le processus électoral en République démocratique du Congo aborde sa dernière ligne droite avec la publication ce mercredi de la liste définitive des candidats à la présidence qui doit officialiser l'exclusion de deux poids lourds de l'opposition, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, de la course à la magistrature suprême. Deux autres opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, plus le dauphin du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, sont les principales personnalités dans cette liste d'une vingtaine de noms que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, doit publier dans la journée à 94 jours du scrutin. Cette publication ouvre la voie à la campagne électorale à partir du 22 novembre, puis aux élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre pour désigner le successeur du président Joseph Kabila, qui ne peut plus constitutionnellement se représenter. Et toujours concernant cette présidentielle du 23 décembre 2013, l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, met en garde contre un possible chaos au Congo-Kinshasa si les élections prévues dans trois mois ne sont pas fondées sur les principes et les valeurs partagées au sein de la SADC, la Communauté économique d'Afrique australe. L'ANC a signé un communiqué en ce sens avec six leaders de l'opposition congolaise, Edi Isango.
L'ANC demande au gouvernement sud-africain de s'engager avec celui de la RDC et la Communauté pour le développement de l'Afrique australe au respect du protocole électoral de la SADC, lequel consiste à promouvoir la tenue et l'observation d'élections démocratiques fondées sur les principes et les valeurs partagées de la démocratie, l'état des droits et le respect des droits humains, rappelle l'ANC et la délégation des partis et regroupements de l'opposition congolaise qui ont co-signé les documents. Pour l'ANC, la situation en RDC peut conduire au chaos, à l'instabilité et à la violence si elle n'est pas résolue en urgence. Et si Magashule, secrétaire général de l'ANC, a signé les textes au nom de son parti, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Adolphe Mozito l'ont fait côté opposition congolaise. Le gouvernement du président congolais répète qu'il refuse toute ingérence dans les processus électoraux qui doit désigner un successeur au président Kabila.
Actualité hors d'Afrique maintenant, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont cherché mardi à désamorcer la crise qui a éclaté après que les forces syriennes ont abattu accidentellement un avion russe à la suite de frappes israéliennes en Syrie. Le point avec Jean-Roger Bion.
Un avion de guerre russe a été abattu au large de la Syrie, par erreur selon Moscou, par la défense antiaérienne syrienne, et 15 membres d'équipage ont été tués. L'armée russe a dans un premier temps jugé Israël responsable du drame, et l'armée israélienne a de son côté contesté que son aviation se soit servie de l'appareil russe comme couverture, comme annoncé. Puis, changement de ton, le président russe Vladimir Poutine a parlé d'un enchaînement de circonstances accidentelles tragiques, semblant adopter un ton plus conciliant envers Israël. C'est apparemment le résultat d'une conversation téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants se sont compris. L'État hébreu a même proposé d'aider les Russes dans l'enquête et le président russe a exhorté le camp israélien à ne pas permettre que ce genre de situation se reproduise d'après le Kremlin. Cet incident inédit est survenu alors que la Russie, alliée de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles en Syrie, ont annoncé un accord sur la province d'Idleb, éloignant à court terme la perspective d'une offensive du régime contre ce dernier grand bastion insurgé dans le nord-ouest syrien.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.